nous a rassemblés dans sa maison et qui veut nous bénir et qui veut nous enrichir, nous épanouir. Il veut nous faire grandir dans la foi et il veut nous conduire encore 2 jours, puis après. Et il veut nous conduire jusqu'à la fin. Nous poursuivons ce matin dans notre petite série sur les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse et nous allons lire le texte concernant la lettre de Jésus à l'église de Philadelphie. Dans Apocalypse, chapitre 3, les versets 7 à 13. Apocalypse, chapitre 3, les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le titre de notre prédication de ce matin, la couronne du vainqueur. J'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant, la persévérance couronnée ou récompensée. La persévérance couronnée ou récompensée. L'église de la ville de Philadelphie est une église aimée par le Seigneur. Il l'aime non pas d'abord à cause de sa faiblesse, mais parce que dans sa faiblesse naturelle, elle a gardé fidèlement la parole de Dieu. De plus, dans sa persévérance constante, elle n'a pas renié son maître. Elle est restée debout, ferme et forte dans la foi. Ici, la question est primordiale. Comment se fait-il qu'une église qui a peu de puissance, selon les mots de Jésus, puisse surmonter tant d'obstacles, supporter tant de persécutions, triompher de tant de tentations, et malgré tout rester forte, garder la parole de Christ, demeurer fidèle sans renier le nom de Jésus. C'est ici le mystère de la foi qui vient de Dieu. Le croyant est rempli de la connaissance de Dieu et de sa parole et par là même rendu capable de triompher de tout par la puissance divine qui est en lui par l'Esprit de Dieu. Le secret de l'Église de Philadelphie est caché dans ces mots du Seigneur qui affirme à son Église qu'elle a peu de puissance. Mais n'y a-t-il pas ici une contradiction évidente? Mais bien sûr que non. Car il faut comprendre que la faiblesse de cette Église est une faiblesse non pas spirituelle, mais naturelle, inhérente à la condition humaine adamique et pécheresse. Et justement, c'est parce que Philadelphie est faible en elle-même que le Seigneur a pu la remplir de sa puissance. Car le cœur des chrétiens fidèles doit être dépouillé du vieil homme pour que le Seigneur puisse le revêtir de l'homme nouveau. Et ce n'est qu'à cette condition que l'Église de Philadelphie a pu expérimenter la puissance divine par laquelle elle a persévéré fidèlement. Et bien entendu, les croyants qui marchent ainsi dans la plénitude de l'Esprit seront couronnés comme vainqueurs et récompensés par Jésus selon ses promesses et selon la richesse infinie de sa grâce, qui nous dit que notre foi recevra le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a maintenant plusieurs éléments importants que nous allons développer quelque peu. Il y a entre autres les obstacles, la persévérance, la victoire et la couronne, mais aussi la manière dont Jésus se présente à cette Église. Et ceci nous amène à notre premier point que j'intitule « La puissance de Jésus ». En se présentant à l'Église de Philadelphie comme celui qui porte la clé de David sur son épaule, Jésus veut dire qu'il est celui qui possède l'autorité et le pouvoir sur toute chose. Il est le Tout-Puissant. Il ouvre et personne ne ferme. Il ferme et personne n'ouvre. Il a la clé du séjour des morts et la clé de la vie. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Autrement dit, il donne la vie à qui il veut et il abandonne à la mort qui il veut. Jésus donc, le Seigneur de l'Église, est le Saint, le véritable, le seul unique Dieu, le seul et unique Dieu vivant et vrai. Tout sage, le tout bon, le Tout-Puissant est aussi celui qui est présent partout à la fois. C'est pourquoi, parce qu'il voit tout, parce qu'il sait tout, parce qu'il peut tout, il est capable, par son esprit et par sa parole, de faire vivre, selon la foi, chaque élu de l'Église de Philadelphie. Il donne à ceux qui obéissent d'être remplis de l'Esprit afin de marcher dans la puissance et la persévérance divine. Ce que l'Écriture veut nous dire, frères et sœurs, c'est que Jésus lui-même est le Sauveur et le Seigneur de son Église. C'est lui qui a appelé à la fois les membres de cette Église et il les mènera à destination. Et s'ils ont répondu à son invitation, c'est encore lui, Jésus, qui leur a donné le droit et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est lui qui sauve et qui guérit le pécheur repentant, le régénère et fait de lui une nouvelle création. Et par quel moyen le fait-il? Par la puissance de sa parole, révélée par l'Esprit dans le cœur des fidèles. En effet, par elle, tout se fait, sans elle, rien ne se fait. Il est vain et illusoire de s'imaginer que le chrétien puisse, par sa propre sagesse et par ses propres forces, contribuer d'une manière significative et dans une mesure quelconque au développement de la vie divine que Jésus a mise en lui. Il faut le dire et le redire, du commencement à la fin, tout ce qui concerne le salut, y compris la sanctification, est l'œuvre de Dieu dans le cœur du croyant, qui agit par sa parole vivante et permanente. Cette parole est la seule et unique parole révélatrice, la seule et unique parole créatrice, la seule et unique parole régénératrice, la seule et unique parole purificatrice, qui fait mourir la nature adamique pour faire vivre la nature christique à laquelle le fidèle participe dans la mesure de son obéissance. Oui, cette parole est vivante, efficace, tranchante, pénétrante. Elle atteint notre personnalité au plus profond de notre être, dans notre conscience, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre volonté. Elle discerne en nous ce qui vient de notre nature charnelle et pécheresse, le coupe, le dissèque, le sépare. En un mot, le fait mourir. afin de faire vivre ce qui vient de la nature divine de Christ. Personne, s'il est vraiment chrétien, ne peut échapper aux yeux de feu de Jésus, qui pénètre au fond de notre âme et qui veut purifier notre cœur, nos pensées, notre esprit, notre volonté, afin de mettre en nous ses pensées, sa volonté, pour que nous soyons des enfants désobéissants et déshonorants, pour que nous soyons des enfants obéissants et persévérants. Ainsi vivait l'Église de Philadelphie. Elle avait reconnu sa faiblesse naturelle, son incapacité foncière à obéir à Dieu, même dans une infime mesure. Elle avait compris son impossibilité flagrante à produire le moindre aspect du fruit de l'Esprit par elle-même. Bref, à faire quoi que ce soit de valable pour Dieu et qui soit recevable devant Dieu. Par conséquent, elle ouvrait tout grand son cœur au Seigneur, laissait la parole de Dieu pénétrer en elle, au plus profond de sa conscience. Elle la comprenait, l'assimilait et la mettait en pratique avec joie et courage. Car elle savait que par rapport à sa faiblesse charnelle, rien ne pouvait la sauver, la sanctifier, l'instruire et la conduire dans les voies de Dieu, sinon la parole. Et quelle parole! Le Verbe créateur de Dieu, qui était au commencement, qui était Dieu et qui était avec Dieu. Cette parole incréée a tout créé. Cette parole incarnée a tout recréé. Cette parole ressuscitée a tout régénéré. Cette parole inspirée a tout révélé. Cette parole vivante et permanente qui est dans le cœur des élus renouvelle et renouvelle encore en eux la vie nouvelle. La vie nouvelle qu'elle a donnée à la foi et pour la foi par sa puissance éternelle et par sa grâce infinie. Comprenons. Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Maintenant, il parle par le Fils. La parole faite chair et qui procède éternellement du sein du Père. Cette parole n'a ni commencement ni fin de vie. Elle est vivante, vivifiante. Elle est immortelle, spirituelle, immuable, infaillible. Elle est incorruptible, indestructible, invisible. Elle habite une lumière inaccessible au-delà du temps et de l'espace. Et pourtant, elle est venue jusqu'à nous, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme la parole de vie qui donne la vie. Comme la lumière du monde qui éclaire tout homme. Comme le pain qui nourrit le cœur affamé. Comme l'eau qui désaltère l'âme assoiffée. Comme le maître qui enseigne son disciple ou ses disciples. Comme le bon berger qui veille sur son troupeau. Comme le sauveur et seigneur de l'univers qui règne réellement. Comme le juge suprême qui jugera chaque être humain. C'est dire à quel point la gloire et la majesté du Fils est grande. Sa personne d'une extrême importance, son œuvre immense, infinie, sa parole solennelle, universelle, essentielle. Son autorité et son pouvoir illimité, son jugement effectif, décisif, définitif, sans secours et sans recours possible. C'est dire encore à quel point il est important et déterminant de l'adorer, de se soumettre à lui et à sa parole, de l'aimer et de le servir fidèlement. Car c'est ici une question de vie ou de mort éternelle, puisque c'est lui qui en a les clés. C'est pourquoi, vivement et pleinement consciente de sa faiblesse, Philadelphie a gardé cette parole qui peut tout et sans laquelle elle ne peut rien faire. Car sans moi, a dit Jésus, vous ne pouvez presque rien faire. Vous n'avez pas la même Bible que moi. Car sans moi, a dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, a dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Non seulement Philadelphie a gardé cette parole, parole de foi qui engendre la confiance en Dieu, parole de connaissance qui instruit selon Dieu, parole d'obéissance qui accomplit la volonté de Dieu, parole de persévérance et d'amour, de persévérance qui donne la constance et l'endurance dans la foi, parole d'espérance et d'amour qui motive le croyant et le remplit de joie. Non seulement Philadelphie a gardé cette parole, mais elle l'a gardée d'une manière qui plaît au Seigneur et qui par conséquent l'aimait particulièrement pour cela. Il y avait sûrement des jaloux. Il y avait sûrement des jaloux. En effet, Philadelphie était aimée du Seigneur parce qu'elle écoutait et recevait cette parole non seulement pour son plaisir intellectuel et pour calmer sa conscience, par le fait d'avoir accompli son devoir, mais elle la gardait précisément parce qu'elle ne pouvait vivre et survivre que par cette parole. Sans cette parole, elle n'était rien. Sans cette parole, elle ne savait rien. Sans cette parole, elle ne voyait rien. Sans cette parole, elle ne pouvait rien. Ni entendre, ni comprendre, ni entreprendre ce que Jésus, parole infaillible de Dieu, lui disait. Ainsi donc, Philadelphie, bien-aimée de Jésus, savait ce que Jésus disait, voulait ce qu'il ordonnait et pouvait ce qu'il commandait. Et pourquoi ? Parce qu'elle ne faisait rien par elle-même, mais laissait la parole agir en elle par la foi, par la puissance de l'Esprit, sachant que dans son indignité et dans son incapacité naturelle, elle devait admettre une fois pour toutes que c'est le Seigneur qui œuvre dans son cœur. Alors, la parole qu'elle gardait précieusement dans son cœur l'instruisait en ce qui concerne le dépouillement du vieil homme, la mort au péché, et la conduisait dans la puissance de la vie qui est en Christ et qui la libérait de la loi du péché et de la mort. Ainsi, non seulement elle gardait la parole de Dieu, mais elle était surtout gardée elle-même par cette parole qui par l'Esprit habitait en elle, la faisait marcher non plus selon la chair, mais selon l'Esprit. En un mot, commençant, non seulement elle possédait la parole de Christ, mais c'est avant tout et surtout la parole de Dieu qui la possédait. La différence est immense. De telle sorte qu'elle vivait ce que l'apôtre Paul pouvait dire, vivait et confessait. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Frères et sœurs, puissions-nous, moi le premier, laissez Jésus, parole ineffable, immuable, invincible, infaillible, nous apprendre à considérer notre moi, esclave du mal et du diable, notre moi irrécupérable et indomptable, comme mort au péché, afin que par la puissance de résurrection et de vie qui est en Christ, que cette puissance de résurrection et de vie qui est en Christ puisse agir en nous par la foi et par l'Esprit. Alors nous aussi, à l'exemple de Philadelphie, nous serons particulièrement aimés par Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, et particulièrement fortifiés par lui dans notre faiblesse intrinsèque, inhérente à notre nature adamique. De plus, il permettra que nous aussi nous gardions sa parole, selon la foi qui plaît à Dieu, et nous aussi nous serons gardés par elle, de telle sorte que seul le Christ, qui nous a aimés le premier et qui s'est livré lui-même pour nous, vive en nous par sa parole. Et pourquoi ? Parce que nous aussi, à l'exemple de Paul, À l'exemple de Philadelphie, nous aurons compris que pour être fort en Christ, il faut renier sa propre sagesse, sa propre force, considérer notre nature charnelle comme une faiblesse devant Dieu. Et alors seulement, quand nous sommes faibles, la puissance de Jésus se manifeste en nous pour la gloire de Dieu. Et ceci nous conduit à notre deuxième point que j'intitule « La persévérance de Jésus ». Si nous ne pouvons vivre que par la puissance de Jésus, qui a la clé de la vie, qui est la source de la vie, alors il est évident également que nous ne pouvons pas non plus persévérer sans Jésus, puisqu'il est lui-même la parole de la persévérance. En effet, Jésus, en faisant l'éloge de l'église de Philadelphie, lui dit « Tu as gardé la parole de la persévérance en moi ». Bien sûr, il s'agit de persévérer en Christ, mais qui peut persévérer en Christ sans persévérer par Christ et pour Christ? Ne venons-nous pas de considérer le fait que sans Christ et sa parole, nous ne pouvons rien faire par nos propres moyens, quand bien même. Notre volonté est engagée puisque nous sommes responsables de nos paroles et de nos actes. Certes, nous sommes exhortés à faire tous nos efforts. Je souligne, nous sommes exhortés à faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, la tempérance, la patience de Dieu, l'endurance et la persévérance de Dieu dans la communion avec Dieu et dans la communion fraternelle. Et surtout et par-dessus tout, nous ajoutons à notre foi l'amour agapé qui vient de Dieu. Cependant, ne nous méprenons pas. Incontestablement, notre participation libre et volontaire est une réalité manifeste puisqu'elle fait partie de notre condition humaine créée à l'image de Dieu, condition que Dieu respecte, bien évidemment. Mais notre capacité à vouloir et à pouvoir ce que Dieu veut est une œuvre spirituelle. Créée en nous par l'Esprit, au jour de notre régénération, puisque nous étions morts, dans nos fautes et dans nos péchés, et dans l'impossibilité de nous en sortir par nous-mêmes. Cette œuvre divine est ensuite renouvelée dans notre intelligence, par la puissance de l'Esprit de vie qui est en nous, et par la persévérance de Jésus que produit en nous l'Esprit, car c'est un aspect du fruit de l'Esprit, tout comme l'amour. Mais alors, encore une fois, n'y a-t-il pas une contradiction? Non, pas du tout. Sauf pour notre intelligence faible et limitée. Pour elle, il y a une contradiction. Car ici, Dieu donne à la tête du client. Non, non. Car ici, Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est l'évidence même. En effet, puisque dans notre faiblesse naturelle et pécheresse, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de parfaitement spirituel, c'est-à-dire qu'il ne soit pas corrompu par le mal, il est par conséquent logique que ce soit lui qui le fasse, que ce soit Dieu qui le fasse, Et c'est ce que Dieu veut, qu'il nous donne les moyens de le faire. Et il les donne avec grand plaisir. Mais pourquoi? Dieu qui sait que nous sommes inaptes à faire sa volonté, à cause de notre faiblesse naturelle, nous commande-t-il quand même d'accomplir l'impossible? Si on ne doit pas se juger entre nous, n'allons surtout pas juger Dieu, hein. Pourquoi Dieu nous commande-t-il quand même de faire l'impossible? Afin que nous nous rendions compte, à chaque fois que cela est nécessaire, que nous ne pouvons rien faire sans lui. Alors il nous dit, « Je vous ordonne certes de vouloir et de pouvoir faire ma volonté, mais en même temps, puisque cela vous est impossible, je crée moi-même en vous le vouloir et le pouvoir que je vous commande. Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. De plus, il faut qu'il en soit ainsi, car puisque cela est hors de votre portée, mais réalisé par mon esprit, la loi de la foi est respectée, et de cette façon, toute gloire revient à Dieu. En effet, les œuvres de la chair glorifient l'homme, mais l'obéissance de la foi glorifie Dieu, le donateur de toutes choses. Ainsi donc, nous devons faire tout notre possible, sans hésiter, sans discuter, sans faiblir, sans murmurer, pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu, à l'exemple de l'Église de Philadelphie, sachant clairement et croyant fermement que c'est Dieu qui fait l'impossible, c'est-à-dire qui crée en nous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous avez compris ? Moi non plus. Et c'est tant mieux. Ce mystère, ce paradoxe divin, où deux choses apparemment opposées, la souveraineté divine et la liberté humaine, s'unissent dans la foi, est inaccessible à notre raison, incompréhensible à notre esprit. C'est pourquoi ne cherchons pas à le sonder, mais sachons cependant ceci. Notre part humaine est réelle, et la part divine est réelle. C'est ici le mystère de la foi, car nous ne sommes pas des robots. La parole divine fait irruption dans notre cœur, s'unit à nous par la puissance de l'esprit, nous régénère, nous libère du péché et de la mort, et nous rend capables de vouloir et de pouvoir ce que Dieu veut en toute conscience, en toute connaissance de cause, en toute liberté et responsabilité. Il n'y a que deux autres exemples de cette vérité et de cette réalité divine. Premier exemple, Jésus. Parole incarnée, qui est en même temps homme et en même temps Dieu. Il est une seule et même personne dans laquelle cohabitent et la nature humaine et la nature divine sans confusion d'aucune sorte. Jésus est véritablement homme et il est véritablement Dieu. Deuxième exemple, la Bible. La Bible, parole inspirée, qui est en même temps parole de l'homme et en même temps parole de Dieu. Elle est une seule écriture dans laquelle est consignée une seule parole, la parole de Dieu inspirée par Dieu et exprimée par l'homme. Et cela sans confusion d'aucune sorte. La parole de Dieu est véritablement parole humaine et véritablement parole divine. Ainsi donc, si Dieu peut se faire homme, si sa parole peut s'exprimer par l'homme, il n'est pas étonnant non plus que le divin s'unisse à l'humain pour faire de lui un homme nouveau. Un être vivant qui participe à la fois à la nature humaine de Jésus et à la fois à la nature divine de Jésus. Le croyant donc est véritablement humain et il participe véritablement à la nature divine. Considérons encore ceci. Jésus, l'homme Dieu, était sans péché, absolument parfait dans sa personne éternelle. L'Écriture, voix de l'homme et voix de Dieu, est sans erreur, absolument parfaite dans ses écrits originaux. Le croyant, l'être humain régénéré, participant des deux natures de Jésus, est sans faute. Il est absolument parfait. Il est une nouvelle création, entièrement spirituelle. Les choses anciennes ne sont plus. Il est né de Dieu. Alors, je dis juste, je fais juste un tout petit, une toute petite parenthèse, je n'aborderai pas ce matin la question pourquoi peut-on pécher encore, ce sera pour une autre fois. Il est né de Dieu. Il n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Son origine adamique, charnelle et pécheresse, est encore là. Mais elle ne doit plus être considérée, elle doit être reniée, maintenue dans la mort de la croix, c'est-à-dire regardée comme jugée et condamnée à la mort éternelle. Et si pour le chrétien, le vieil homme a été crucifié à la croix, réellement crucifié par la foi, mort et enseveli par la foi, il s'ensuit dès lors que par la résurrection, le croyant reçoit une origine nouvelle, une origine christique qui a fait de lui un fils de Dieu et un frère de Jésus. À cause de cela, notre moi ne doit plus vivre. Il ne doit plus prendre de l'emprise sur nous et nous ne devons plus demeurer sous son emprise. C'est pourquoi nous devons, à l'exemple de Philadelphie, persévérer dans l'enseignement des apôtres, hein, c'est écrit ici, et rejeter, renier notre moi égoïste et orgueilleux qui, selon sa nature pécheresse, esclave du diable, veut encore et toujours nous inciter au mal. Et dans le même élan, en même temps que nous nous dépouillons du vieil homme, que nous rejetons le péché, nous devons nous revêtir de l'homme nouveau qui se renouvelle de jour en jour par la foi dans la connaissance de celui qui l'a créé. Cet homme nouveau, c'est Christ. C'est de son humanité et de sa divinité que nous devons nous revêtir. Et par quels moyens ? Par la puissance que donne l'Esprit et la parole. Et de quelle manière ? Dans une obéissance filiale, dans l'esprit du premier amour et dans une persévérance continuelle. Frères et sœurs, c'est ainsi que l'Église de Philadelphie gardait la parole de la persévérance en Jésus. En effet, toute la vie chrétienne se résume dans cette règle de doctrine, dans ce principe vital dans lequel nous avons été livrés, à savoir, mort au péché. Pardon ? Ah, vivant pour Dieu. Car il n'y a pas d'autre alternative. Le principe de l'esprit de vie qui est en Jésus est seul capable de nous délivrer de la loi du péché et de la mort qui est en nous. À condition toutefois que nous persévérions dans cette règle de doctrine, dans cette loi de vie, dans cette puissance de vie, dans la parole de Jésus qui seul peut tout et sans laquelle nous ne pouvons rien. Chers amis, il faut se souvenir que sans cette persévérance, sans cette marche persévérante dans la sanctification, sans résistance au péché dans le bon combat de la foi, sans patience dans l'épreuve que sont les tentations, sans obéissance à cette parole de la persévérance en Jésus, nul ne verra le Seigneur. Selon que Jésus l'a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comprenons bien, Jésus ici n'exige pas de nous la perfection, mais la consécration. Une consécration pleine et entière, le sacrifice vivant de notre vie pour Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable, intelligent, l'amour de notre cœur qui répond au cœur de Dieu qui nous a aimés le premier. Et ce service, en quoi consiste-t-il ? Il consiste à s'abstenir de se conformer au siècle présent, à laisser Jésus nous renouveler spirituellement dans notre intelligence, par sa parole révélée en nous par l'Esprit. À cette condition uniquement, nous pourrons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et mettre en pratique cette volonté divine comme elle se fait au ciel. C'est ainsi que l'Église de Philadelphie, par la puissance et la persévérance de Jésus, menant le bon combat de la foi, se consacrant à son Seigneur, sans réserve, a tout enduré, tout supporté, les tentations, les persécutions de ses ennemis, les moqueries de son entourage, et par la grâce de Dieu, a tout triomphé, a tout surmonté. Vous me donnez encore 2-3 minutes ? Oui ? Merci. Elle n'était pas parfaite, l'Église de Philadelphie. D'ailleurs, aucune Église n'est parfaite, aucun chrétien n'est parfait. Mais par son obéissance fidèle, intelligente et persévérante, le croyant démontre qu'il poursuit la sanctification, qu'il est en route vers le ciel, marchant par la foi, combattant le bon combat selon la règle de doctrine, selon le principe divin qui donne la vie. Car sans la mort au péché, ou sans mort au péché, pas de vie pour Dieu. Car nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Mais la vie de Dieu jaillit en nous dans toute son abondance et dans toute sa puissance quand nous renonçons à la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. C'est à ce moment-là que la vie jaillit en nous, puisque la vie jaillit de la mort. C'est pourquoi, sans le bon combat de la foi, sans la patience, sans persévérance dans l'obéissance à la parole de Jésus, sans la puissance de la parole que nous gardons, qui nous est accordée par l'Esprit, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Et sans victoire, il n'y a pas de couronne. Il n'y a pas de couronne. Ah, mes chers amis, puissions-nous, moi le premier, par les compassions de Dieu à notre égard, selon ses promesses, vivre pour Dieu, conformément au principe de vie qu'il nous a donné, en combattant selon les règles de la foi, car celui qui ne combat pas selon les règles, dit l'Écriture, ne sera pas couronné. Oui, par la grâce de Dieu, acceptons la mort au péché. Acceptons la mort à nous-mêmes et au monde. Offrons notre vie à Dieu sans réserve, sans retour, afin d'expérimenter la puissance et la persévérance de la résurrection qui est en Jésus. Alors, et alors seulement, nous aurons la victoire et nous serons aussi couronnés. Ne laissons rien ni personne nous ravir cette couronne. Retenons-la fermement, car Jésus vient seulement dans 2000 ans. Car Jésus vient bientôt, ça veut dire subitement, promptement. À l'exemple de Philadelphie, acceptons les épreuves, surmontons les tentations, triomphons du monde et du péché, soyons reconnaissants, joyeux et courageux, et confessons le beau nom de Jésus sans le renier. J'arrive au bout. Cette couronne de gloire, étincelante de beauté et de pureté, cette couronne de justice parfaite, de vie de plénitude, de félicité éternelle, cette couronne que nous porterons toujours dans la présence ineffable de Jésus, oui, cette couronne, nous la saisissons par la foi. Nous la retenons par la foi. Nous la remportons par la foi et nous la porterons au ciel. Et nous la porterons au ciel dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour et pour toujours. Et pourquoi ? Parce que nous aurons été les meilleurs chrétiens du monde. Non. Parce qu'à l'exemple de Philadelphie, nous aurons persévéré dans l'obéissance fidèle, nous aurons persévéré dans le bon combat de la foi, que nous aurons mené avec persévérance, selon les règles, c'est-à-dire par la puissance de la parole, de la persévérance qui est en Jésus, qui nous aura instruits et nous aura conduits jusqu'à la gloire céleste. Oui, mes chers amis, souvenons-nous que Jésus revient bientôt. Et faisons diligence. triomphons comme les héros de la foi et soyons plus que vainqueurs. Alors nous aussi, comme Philadelphie, nous serons couronnés, nous serons récompensés, nous serons semblables à Jésus, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons pour toujours avec lui, comme des colonnes dans son temple merveilleux et glorieux, et nous n'en sortirons. Pardon ? Et nous n'en sortirons plus. Waouh ! Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.